Bonjour à tous, bienvenue au podcast Le Caplan roule sur le territoire en collaboration avec la SADC Haute-Côte-Nord, Côte-Nord et Manicouagan. Ici, on souhaite créer un espace pour parler librement avec des entrepreneurs de la région de la Côte-Nord parce que leur travail est important pour notre écosystème social, notre écosystème économique, un peu comme Le Caplan pour le Saint-Laurent. Mon nom est Anne-Édith Daou, je suis la fondatrice de l'entreprise Caplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite valoriser, raconter la région par le biais de plusieurs projets, dont le podcast, mais aussi une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Je travaille avec plusieurs artistes que vous pouvez découvrir sur le site web caplan.ca. Donc, le Caplan roule sur le territoire, qui est fait en partenariat donc avec plusieurs commanditaires, dont la SADC Côte-Nord, Haute-Côte-Nord et Manicouagan, qui nous permettent de se rendre, en fait, de parcourir le territoire de Tadoussac à aller jusqu'à Havre-Saint-Pierre. C'est une série de 5 épisodes spéciales qu'on fait pour aller rencontrer physiquement les entrepreneurs sur le terrain. Donc, on se trouve présentement au bistrot Henri, qui est au Bergeron, et je suis avec 3 beaux entrepreneurs. Habituellement, j'ai mon acolyte avec moi, mon co-animateur, donc André Morin de la microbrasserie Saint-Pancras à Baie-Comeau. Il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais je le salue, je le sais qu'il est à l'écoute. Donc voilà, salut André. Sinon, ben, j'ai mes collègues, en fait, du groupe Nurture qui assurent la captation de cet épisode, donc Dylan et Olivier. Donc merci les gars d'être là. Et sans plus tarder, ben, je vous présente nos entrepreneurs autour de la table. Donc, je commence par William Saint-Cyr.
Bonjour.
Bonjour, propriétaire de Boréalgue.
Oui, c'est William Cyr Lamy,
par contre. Oh, pardon. William Cyr Lamy.
Pas de soucis.
Ça va bien?
Oui.
Oui. Donc, Manuel Bugeaud Richard, qui est propriétaire de Celle Saint-Laurent. Salut.
Salut.
Et Jean-Sébastien Sicard, donc copropriétaire et chef du restaurant chez Mathilde à Tadoussac. Ça va bien?
Ça va très bien, vraiment.
Oui,
oui, content d'être là.
Ah, je suis contente de vous savoir là aussi. On va parler de 3 sujets aujourd'hui, qui est la créativité, l'innovation et la collaboration. Puis je voulais savoir, juste en quelques mots, qu'est-ce que ces 3 mots-là vous inspirent?
Qui commence?
Vas-y. Te parler
oui?
Premier.
dans mon cas, ça va être différent de vous, j'ai l'impression, parce que je vais introduire le concept de naïveté. Sans ça, j'aurais jamais eu les couilles de me présenter sur la Côte-Nord puis essayer quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ça prend énormément de naïveté pour faire quelque chose d'aussi compliqué. Et donc, la créativité prend forme par après.
Ouais.
Donc, l'idée de départ, c'est quelque chose. Mais après ça, pour se lancer en affaires, c'en est vraiment une autre. Et pour moi, je l'ai vécu comme ça. Mm. Puis avec un peu de recul aussi, je pense que je dirais la même chose dans 5 ans, pour être honnête.
Ah ouais, hein?
Oui, oui.
Puis vous?
Ben moi, je suis entièrement dans la même lignée que Manu, parce que moi, je suis arrivé à Tadoussac en tant que musicien.
Ouais, on pourra parler tout à l'heure.
Je n'avais jamais imaginé que j'aurais un restaurant un jour. J'aimais cuisiner. C'est moi qui cuisinais partout quand on était en tournée avec le groupe avec qui j'étais. Puis, mais tout le monde me dit « Ah, tu devrais avoir un restaurant un jour. » Puis là, ben, je me dis « Ah non, peut-être, à un moment donné. » Mais là, je suis concentré sur la musique. Puis est arrivé dans ma vie Mathilde, tu sais, qui tranquillement, tu sais, je veux dire, on est à la base, puis en plus, à la base, pour parler de la naïveté, comme Manu disait, tu sais, on a acheté ça, on n'avait jamais été gérant, on n'avait jamais été, je veux dire, propriétaire ou actionnaire d'une telle entreprise, tu sais, je veux dire, on avait toujours été salarié pour des gens. Puis on a décidé de partir cette aventure-là, puis c'était même pas moi qui étais supposé être dans la cuisine à la base, tu sais. Puis c'est... suite à la rencontre d'une grande chef aux Îles-de-la-Madeleine qui m'a convaincu que c'était moi qu'il fallait que je sois dans la cuisine, que c'est le grand défi de la créativité de pouvoir apporter ça chez Mathilde à Tadoussac. C'est un peu le même parcours de naïveté.
Et toi, William, est-ce qu'il y avait beaucoup de naïveté aussi également dans le projet Boréalgues?
Oui, mais moi, c'est plus à l'envers que je vois ça. Je vois plus le côté créatif que des entrepreneurs qui sont créatifs. C'est justement, je fais souvent référence à, ben, quand tu as une fibre artistique, tu es souvent confronté avec une page blanche. Puis il faut prendre le risque de commencer à dessiner quelque chose, commencer à créer quelque chose. Puis je trouve que les entrepreneurs qui ont une fibre artistique ou créative, ben ça donne que souvent des entreprises qui sont différentes, qui sont qui peuvent se démarquer un peu, qui osent aussi aller en région où ce qu'il y a personne, que c'est plus difficile, que c'est dur faire accepter peut-être socialement ou d'autres contextes. Donc ouais, la créativité amène, je trouve, des une différence dans les entreprises comme...
Oui, une plus-value. Ouais. En fait, on va pouvoir l'approfondir, ce sujet-là de la créativité. Peut-être la naïveté aussi, parce qu'on va vraiment approfondir un peu vos parcours entrepreneuriales. Mais d'abord, j'aimerais ça inviter les gens, en fait, à notre segment Boire le territoire, qui est commandité, en fait, qui est présenté par Tourisme Côte-Nord. C'est une occasion vraiment de découvrir des produits de chez nous, donc des produits de la Haute-Côte-Nord, cette fois-ci. Puis j'aimerais ça inviter, en fait, Lisa Marie Martin, qui est propriétaire, copropriétaire du bistrot Henri, mais également de l'auberge ici et de la cantine Paulina également. Salut!
Allô!
Ça va bien?
Et toi?
Oui, contente que tu sois là.
Merci beaucoup.
Et là,
t'es
là pour... Ben oui, absolument. T'es là depuis... Ça fait combien de temps que l'auberge a été reprise par toi et ton conjoint?
On a repris en juillet 2020. On est arrivé à Bergeron en mars 2020. Puis on a repris, le processus d'achat a pris un peu plus de temps étant donné la pandémie mondiale. Ouais. Fait que janvier 2020, on a repris.
Incroyable. Puis vous étiez en France quand même. Peux-tu me parler un petit peu de votre arrivée en Haute-Côte-Nord et le choix aussi de passer de la France au Bergeron, parce que ton conjoint, Félix, était joueur de hockey professionnel?
Il a fait sa carrière de hockeyeur pro en France, lui. Donc, après ses études universitaires, on est parti là-bas en 2013. On a fait 2 saisons à Grenoble, puis ensuite, on a fait 4 saisons à Bordeaux. Okay. On a eu nos 2 enfants là-bas. Puis voilà, dans le fond, il gagnait sa vie comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on a économisé les sous, en fait, pour pouvoir se lancer en affaires, parce que c'était quelque chose qu'on voulait tous les deux, être entrepreneurs un jour.
Dans la restauration et l'hébergement?
Non. Non,
non. OK.
Non, non. La restauration, c'est vraiment un hasard. On avait commencé en entreprise touristique à Bergeron, en fait. C'est comme ça qu'on a commencé, puis l'auberge est arrivée, puis on s'est dit... qu'on aimait le tourisme et tout ça, fait qu'on s'est lancé comme ça. Puis le resto, il est arrivé un petit peu plus en plus-value de l'auberge La Rosepierre qu'on avait acheté. Nous, on voulait avoir un resto pour les clients de l'hôtel, mais à un moment donné, on avait aussi ce projet-là de faire un endroit, un resto qui serait pour la clientèle locale, pour les locaux. Fait qu'on a comme cette dualité-là que l'été, ça roule à cause de l'hôtel et tout ça, mais l'hiver, on reste ouvert que pour les locaux, parce qu'on n'a pas de tourisme l'hiver.
Puis là, la beauté, cette fois-ci, en Haute-Côte-Nord, c'est qu'on a 2 cocktails qu'on va présenter. Donc, le cocktail à Lisa Marie, mais le cocktail aussi à toi, Jean-Sébastien. Donc, ça va faire un peu de diversité autour de la table. Donc, on peut commencer, bien évidemment, avec ton cocktail. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu le fais puis c'est quoi les différents ingrédients que tu utilises?
Donc, en fait, on part avec la base. Donc, je fais faire un espresso martini glacé. Fait que c'est bien populaire, les petits espresso martini. Fait que voilà. Fait qu'on part avec la glace. Je vais utiliser le café du manoir du café de Bécomo. Donc là, je vais le faire pour 2 recettes. Donc, l'espresso du manoir. Ensuite, une liqueur de vanille. Je vais y aller avec... une liqueur d'agrumes, Cointreau, Grand Marnier, ça peut être...
OK.
Et une liqueur de café. Fait que là, bien ça, il y a des belles liqueurs de café québécoises aussi, donc on peut y aller. Et ça va prendre de la crème 35%. Question que ce soit meilleur. Plus c'est gras, plus il y a de l'amour, mieux
on
c'est.
On aime ça, la crème.
On est là.
On aime ça, la crème.
C'est ça.
Il y a toujours un petit style qui vient avec le brassage des cocktails. Hein?
Je vois vigoureusement.
Oui, c'est ça.
Mm. C'est clair. Qu'il y ait un peu de crème, que ce soit justement onctueux. Hop!
Et là, il y a deux chanceux qui vont pouvoir goûter à ça. Oh wow, ça a l'air super onctueux. Puis pourquoi justement le ben en fait j'imagine que c'est le mélange des saveurs là, le goût sucré, peut-être acidulé du café avec le petit, la petite touche de sel, c'est comme un petit drink sucré salé.
Ben le caramel sur le dessus est quand même assez subtil, là, on l'a éventuellement. Okay. J'essaie toujours de faire personnellement, je suis pas fan de drinks très sucrés, donc c'est sûr que je vais faire des drinks que j'apprécie tout ça. Fait que j'essaie toujours de balancer à ce niveau-là. T'sais, j'ai la liqueur de café qui est un peu sucrée, fait que ça va être mon sucre, avec la liqueur d'agrumes, la liqueur de vanille aussi elle est, mais comme l'équilibre là-dedans, que ce soit pas trop intense. Puis le café, ça apporte l'amertume qui est intéressante aussi.
Ça a l'air bon, tout ça?
Oui, en tout cas, il est super beau. Oh, la petite créma par-dessus, oui, hein? Magnifique. Oh.
Classique. C'est plus difficile de mettre mon caramel.
On voit qu'il y a beaucoup d'amour dans la préparation.
C'est tout simple, mais...
Moi, ça se fait quand même assez bien.
Là, j'ai oublié d'amener... d'habitude, je mets un petit bâtonnet avec pour être capable de venir mélanger le caramel éventuellement. D'habitude, c'est un petit peu plus cute, mon petit tourbillon. Je veux te faire honneur.
Je te garantis que c'est beau d'ici.
Bon, parfait.
Ça doit être quand même quelque chose de vraiment agréable de voir que son produit est utilisé justement dans des recettes créatives ou dans des dans différents... Soit des recettes, justement un drink comme ça, où je sais que Jean-Sébastien utilise aussi le sel, le sel Saint-Laurent.
C'est tout le temps le fun. Uh-huh. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu quand j'ai commencé à faire ce produit-là.
Ah ouais, hein?
C'est vraiment un ingrédient de base qui sert à tout. Puis on se fait approcher par du monde qui font du chocolat, n'importe quelle des recettes, des sauces. C'est tout le temps un honneur de pouvoir faire des collaborations avec tous les artisans du Québec.
Absolument. C'est surtout qu'en plus, je veux dire, son produit, c'est un produit extraordinaire.
Ouais.
Puis, tu sais, il faut s'entendre que c'est une histoire complètement fou. Moi, je suis tombé en amour avec son histoire quand on s'est rencontrés. Oui. Tu sais, je veux dire, écoute, ça prend un capoté, sérieusement, d'aller chercher l'eau du Saint-Laurent pour tout le système de l'évaporation, pour aller chercher ces magnifiques cristaux-là qui sont beaucoup moins salés que la fleur de sel.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est tellement subtil.
Dans le commerce,
ouais.
Ouais, c'est comme
ça. Ça n'a pas la même. C'est pas du tout la même forme, en fait, que la fleur de sel de Guérande. Tu sais, il y a comme une finesse aussi dans le sel, mais dans le goût également.
Exactement. Puis au début, je me rappelle, la première fois qu'il m'en a apporté, c'est sur ses premiers tests de sel, quand on s'est rencontrés, ça m'a pris une adaptation au début. Parce que, tu sais, t'es habitué de saler d'une certaine façon. Ouais. Mais là, il fallait que j'en mette un petit peu plus. Parce qu'il était moins salé, mais on avait comme tout le côté croustillant. C'était comme vraiment ça qui était extraordinaire. Très intéressant.
Puis j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ton histoire. Vraiment, c'est vrai que c'est une histoire vraiment super intéressante, comme les vôtres d'ailleurs. Là. On va pouvoir... est-ce qu'on goûte? Oui?
Allez.
Super.
Ben,
en fait, on va goûter, mais là, j'aimerais ça que Jean-Sébastien puisse nous faire... son drink aussi. Comment on sépare ça? On a deux...
Ben, vous êtes les plus proches, allez-y.
Ouais.
Allez-y.
Formidable. Donc, j'inviterais Jean-Sébastien, merci beaucoup. Je t'inviterais peut-être à venir autour de la table pour que tu puisses avoir ton verre. Puis Jean-Sébastien, peut-être à justement te rendre...
Allez m'installer ouais,
on va s'installer. Allô?
Allô?
Ça va bien?
Okay, oui, vraiment.
Oui, donc on change d'intervenant pour changer le drink pour en avoir un deuxième.
Ouais.
Et là, on va vraiment boire le territoire avec toi.
Bien, en fait, c'est ça. C'est quand on s'est parlé en début de semaine, tu me dis, ah, ce serait le fun de faire comme un cocktail. Puis, comme moi, c'est pas vraiment mon domaine, tu sais. Puis là, j'ai discuté avec Mireille. Puis là, bien, tu sais, c'est Mireille qui s'occupe plus.
Avec toi, exactement, qui est ton amoureuse.
Exactement, mon amoureuse qui vient de la Côte-Nord, en fait. C'est le pourquoi que je suis ici aussi. Ouais. Puis c'est vraiment elle qui est spécialisée dans les cocktails. Puis là, j'ai dit, OK, là, j'aimerais faire un cocktail avec ça, tu sais. Puis là, ben, là, elle me dit, ouais, t'as une minute, là, tu sais. Là, parce que, tu sais, là, nos ingrédients qu'on a, là, ça va être de l'eau de tomate. OK, on, je vais le faire en même temps?
Oui, okay, pourquoi pas?
Ben oui. Puis là, ben, on s'est dit, de quelle façon on pourrait faire un cocktail qui serait vraiment nord-côtier, puis en plus, on aurait les éléments de nous trois, puis de la Côte-Nord. On s'est dit, OK, dans le jardin, on a fait des tomates, qu'on va partir avec de l'eau de tomate.
Wow.
Donc, ça va être comme une espèce de Bloody Caesar réinventé un peu, ben, peut-être pas réinventé, mais à la façon nord-côtière. Que là, à ça, on va rajouter un bouillon d'algues. On parle des algues. Nos algues du Saint-Laurent. Ensuite de ça, pour apporter, tu sais, dans les Bloody Caesar...
Le bouillon d'algues, en fait, ça remplace... ben là, en fait, tu viens de faire le Clamato version Côte-Nord. Genre, avec le bouillon d'algues et l'eau de tomate.
Exactement. Puis là, ben, j'adore ça. Tu sais, souvent, il va y avoir de la palourde. Là, tu te comptes, ouais. Qu'est-ce qu'on a sur la Côte-Nord? Ah, des bourgots. On s'est dit, on va se mettre du jus de bourgots. Là, tout ça, au début, j'ai amiré, on va faire ça, on va mettre des crevettes. Puis là, elle fait comme... Là, t'es... Attends une minute, là. Ça marche pas. J'ai dit, non, Mireille, je te le dis, là, faut le faire. On va l'avoir. On se met un petit peu d'agrumes. Puis, on finit avec le gin nord-côtier, bien entendu. Que, là, il y en a beaucoup là-dedans. Comme je disais...
Fait que salutations à Catherine Blier de la distillerie Vent du Nord, oui, qu'on aime beaucoup.
Bon, j'espère que j'en mettrai pas partout. C'est pas... je pense que c'est la première fois que je vais shaker.
Pas vrai? Ça te va comme un gant, Jean-Sébastien.
Mais t'as déjà été musicien, mien... c'est naturel.
On ah, entend les maracas.
Oui, mais oui.
Il y a le fond du rythme, en tout cas.
Ah, oui. T'as rien perdu.
Pendant 2 secondes, tu me fais peur avec ton jus de tomate proche de la banquette.
Oui, c'est ça, exactement. Puis là, ça, c'est comme on a parlé à cause de l'eau de Bourgogne, ça nous donne une belle petite mousse, là. Mm. Oh my God.
Oh, wow.
Puis, en plus de ça, bien sûr, on a topé... Oups, là, j'ai fait de la cochonnerie. On a topé le contour du verre Marie-Antoinette avec le sel Saint-Laurent, bien entendu, mélangé avec des champignons que Manu a fait.
Wow.
C'est un lactaire à l'érable qu'on a cueilli au Bergeron.
À
je l'ai trouvé juste une fois, j'ai fait un sel avec.
Wow.
Que je donne, on ne le vend pas.
Édition limitée.
Édition limitée juste pour les amis.
Oui.
Puis là, on finit. Tout était parti de ça. Je m'étais dit, ça, c'est les crevettes nordiques qui viennent de cette île, de la poissonnerie Soucy. Tu sais, Soucy, en fait, un ami que j'ai rencontré il y a 2 ans, c'est des crevettes que lui, c'est un autre capoté. Comme nous autres,
ouais,
on les adore, ceux-là. Tu sais.
On a reçu d'ailleurs Frédéric de la poissonnerie Soucy,
okay,
parce que c'est une famille, c'est 2 couples, en
ouais,
fait, qui
ouais,
ont
exactement
ça. Donc, on a reçu au podcast Le Caplan Roule, donc Frédéric qui est venu nous parler de son entreprise.
Puis lui, c'était un fou raide.
Ouais,
il décortique conjoint la crevette crue. Que la crevette que vous allez goûter, c'est une crevette comme ça, on en a très peu mangé, ouais, de cette texture-là. Que je l'ai envoyé comme juste 30 secondes dans l'eau pour ne pas la manger crue, simplement. Puis là,
wow,
on va l'envoyer comme ça, sur le dessus. Voilà.
C'est
pas trop. En collaboration avec mon amoureuse Mireille Perron. Tu sais,
Salutations à Mireille.
Oui.
Oui.
Wow. Magnifique.
Que j'espère que ça va être bon. On l'a essayé pour la première fois hier soir.
Incroyable.
Voilà.
Merci.
Ben, on se fait un petit cheers.
Ah, j'ai oublié quelque chose.
Oui, vas-y.
Dernier élément.
Ah,
elle m'avait dit, oublie pas ça, le poivre des dunes.
Oh, wow.
Que le poivre des dunes de notre ami Russell Tremblay. De...
Oh, Russell Tremblay de ouais. Forestville?
Ouais.
C'est ça, hein?
Le saveur boréal.
Wow. À quoi demander de mieux pour commencer une belle conversation sur l'entrepreneuriat nord-côtier? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut.
Santé. Ouais, santé. Allez-y.
Cheers. Il a goûté hier.
Chin. Ouais, moi, j'ai goûté hier puis je bois pas de café.
J'ai santé, pas. Manu. Il est plein.
Ah, ouais.
Ouais. Pas avec les micros, c'est difficile.
Dans la droite,
on fait un chin de loin.
Mm.
Oh, wow. Ah, oh, c'est bon.
Oh, yeah.
Oh, wow.
Vraiment bon. Ouais, c'est top. Peut-être oui, j'ai plus de ce côté-là.
Ah, oh, pour vrai? Ouais, hey, ouais. Pourquoi pas?
Allez, let's go.
Mon Dieu.
Tiens, hey, merci.
T'es allé ce que j'y goûte?
Allez-y, tiens.
Super bon.
Merci.
Oh, wow.
Belle petite crevette.
Ça goûte. Là, on boit vraiment notre territoire. Ça goûte, la Côte-Nord. Ouais. On aime ça.
Ouais.
Oh, wow. Ah, oh, ben oui.
Ben oui. Vas-y, mange-les tout. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, comme ça. Je vais goûter ici pour voir d'un coup que.
Tellement bon.
L'as-tu manqué? Non, hein?
Non. Ah, c'est le fun. C'est le fun,
ouais,
hein?
C'est frais.
C'est vraiment. Ouais. Ah, mais les crevettes, là. À dire que ça, on s'apprête à plus en avoir dans le fleuve. C'est excellent.
Quand je l'ai rencontré, là, je te le dis, je capotais. Quand on était dans le salon Fourchette Bleue.
Ouais.
Puis là, il parlait avec des gens. Puis là, il dit, « Ouais, c'est ça, moi, je fais de la crevette décortiquée crue. » J'ai quasiment poussé le gars de même. J'ai dit, « Pardon? » Puis là, c'est ça. Puis là, ben, on a commencé à faire enfant ensemble. Il est venu manger chez nous. Puis je veux dire, écoute.
Son nom m'échappe. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Tu te souviens pas, hein?
Michel.
C'est Michel, c'est ouais. Ça, exactement. Crème, si je le cherchais.
Pendant 30 secondes, j'ai fait comme, oh my God.
Non, c'est vraiment bon. C'est vraiment trippant.
C'est le fun? Merci. Ah, je suis content. Mais oui.
Merci.
Ça fait plaisir.
C'est vraiment
merci
super.
Merci à toi, en fait.
Colin. Okay. Habituellement, lorsque je commence un podcast, ma première question est souvent, vous êtes un petit gars ou une petite fille à qui? Parce que c'est souvent la première question qu'on se pose lorsqu'on se rencontre sur le territoire. De dire d'où tu viens, est-ce que tu es nord-côtier, est-ce que tu viens d'ailleurs. Vous êtes trois personnes qui ne viennent pas, vous n'êtes pas natifs de la Côte-Nord, mais vous avez choisi. Ben je ne sais pas en fait si la Côte-Nord vous a choisi ou si vous avez choisi la Côte-Nord. William, je commencerai par toi. Toi, tu as choisi de t'établir aux Escoumins pour créer ton entreprise Boréalgues qui, tu veux faire de la culture d'algues. Mm-hmm. Peux-tu me raconter un petit peu ton parcours entrepreneurial qui a commencé, je pense, après la pandémie, après tu as fait des études, en fait,
en aquaculture.
En aquaculture.
Oui. Et c'est ça, moi, dans le fond, je suis, avant la pandémie, c'était plusieurs années que j'ai vécu à l'étranger. 12 ans, entre autres les Philippines, le Japon. Et là-bas, j'ai vraiment vécu avec l'eau. Et dans le fond, quand je suis revenu ici, je pensais aller revivre dans le bois, mais finalement, l'eau me rappelait tout le temps. Puis c'est en aquaculture que là, j'ai découvert vraiment l'aspect travailler avec l'eau. Et, finalement, c'est
la là question que la passion de la des algues, en fait, t'as comme happé, en fait.
Exactement. Et pour revenir à la question de la Côte-Nord qui m'a appelé, peut-être, oui, c'était les algues de la Côte-Nord qui m'ont appelé dans la région. Et finalement, je vois toutes les merveilles que la Côte-Nord a, autant au niveau naturel qu'au niveau des communautés qui sont autour. Donc,
Fait que t'es venu t'établir sur la Côte-Nord parce que t'as choisi les algues de la Côte-Nord puis t'as choisi de créer ton entreprise, en fait, aux Escoumins.
Oui, exactement.
OK. Puis c'est quoi qui ont de particulier les algues?
C'est pas juste les algues, c'est l'eau. La qualité de l'eau, elle est très unique. Il y a d'autres entreprises aussi qui ont besoin d'une belle eau comme ça. Et c'est vraiment parfait pour des algues. L'eau froide, c'est une identité aussi du Québec, cette eau-là. Et c'est les algues de la Côte-Nord les plus belles.
Puis t'es natif d'où?
Je viens de l'Estrie, de Sherbrooke, okay. De Stoke, et il n'y a pas du tout de mer, mais c'est ça. C'est vraiment à vivre à l'étranger que j'ai eu la passion pour l'eau.
Pour l'eau.
Travailler avec l'eau. Ouais.
Et le fleuve dans ce cas-ci.
Et ouais, le fleuve qui est juste merveilleux.
Manuel aussi, c'est un peu l'appel du fleuve qui t'a emmené au Bergeron.
Oui, exactement. Comme il l'a mentionné, c'est la qualité de l'eau. En pleine pandémie, je cherchais mon fleuve. En fait, je suis natif de Gaspésie, donc c'est pas le fleuve, mais c'est le Québec. Et j'avais vraiment besoin de partir. On a fait des tests de qualité d'eau un peu partout. Puis c'est vraiment ici que tu as la plus belle qualité de tout le Québec. C'est le courant du Labrador. Donc, c'est une grande, grande course là, qui part de l'océan Arctique. Qui fait le tour de la planète au complet. Puis c'est une branche qui arrive ici. Et le froid fait en sorte que tu as trois courants, Saguenay et Saint-Laurent, qui se rencontrent, qui donnent cette biodiversité unique au monde. Donc j'ai choisi la Côte-Nord pour l'unicité du territoire et cette qualité extraordinaire qu'on trouve juste ici.
Quand même. Ben oui. C'est beau de savoir. Des fois, tu sais, lorsqu'on vit, en fait, sur la Côte-Nord, on n'a pas nécessairement tout le temps ça en tête, à quel point on est chanceux d'avoir cette qualité-là, en fait, en termes de nature, puis en termes, là, en ce moment, d'eau qui peut nous procurer du sel. Là, je pense pas que... Il y a 10 ans, on avait nécessairement cette information-là.
Ben moi non plus, je ne l'avais pas vu il y a 10 ans. Exact. C'est quelque chose que tu découvres quand tu t'intéresses à un territoire, puis tu fais de la recherche. Puis c'est un océanographe de Chasse-Marie, une autre entreprise qui exploite les Bourgos, entre autres, qui m'a glissé la puce à l'oreille en me disant « Regarde de ce côté-là, je pense que c'est là que tu as le plus de chances de développer un produit de qualité. »
Parce que tu connaissais les Bergeronnes avant?
Jamais entendu parler. Je pense pas que j'avais mis les pieds sur la côte, non. J'allais tout le temps en Gaspésie voir ma famille.
Wow! Fait que c'est vraiment l'eau qui t'a amené sur la Côte-Nord, la qualité.
La qualité de l'eau, puis la recherche de faire un projet relié à l'eau, comme William aussi. C'est comme... Il y a des appels dans la vie qu'on comprend pas, puis ça, c'en était un pour moi aussi.
Puis t'as aussi lié à la mer, à Tadoussac. Toi, c'est l'amour qui t'a fait venir sur la Côte-Nord. T'en parlais tout à l'heure avec Mireille.
En fait, à la base, c'était la musique. Que je suis venu jouer pendant plusieurs années au Festival de la chanson de Tadoussac. En fait, ma première fois que je suis venu à Tadoussac, c'était ça, c'était en 95, 96, au Festival de la chanson. Je suis tombé en amour avec la place. On est venu jouer à chaque année. Puis quand le groupe s'est séparé, mais en fait, je savais plus quoi faire. Puis que j'ai décidé de venir passer un été à Tadoussac. J'ai rencontré l'amour. Puis en plus, bien, j'ai rencontré une région, un territoire... puis tranquillement, ben c'est ça, j'ai fait mes classes, puis je veux dire, puis à un moment donné, est arrivée l'opportunité que les bâtiments qui sont devenus Mathilde aujourd'hui, c'était avant. Puis là, on s'est dit avec Mireille, ben, pourquoi qu'on partirait pas un projet? Ça faisait longtemps. On avait regardé ici à Bergeron, c'est super drôle. Le premier amour, on s'était dit, bon, on pourrait avoir une petite auberge avec un petit côté restauration, tu sais, à Bergeron, c'est super drôle. Puis,
c'est drôle qu'on se retrouve au bistrot Henri aujourd'hui.
Oui, exactement.
Hein?
Ouais. Ouais. Puis là, ben, on a parti tranquillement. Puis là, ben, j'ai fait mes classes avec les années parce que moi, je viens d'un monde de musique. J'aimais la cuisine parce que j'ai travaillé beaucoup comme serveur, mais je n'avais jamais travaillé en cuisine. Que tranquillement, depuis les 16 dernières années, j'ai évolué culinairement. Ouais. Puis surtout, j'ai évolué avec les gens avec qui je rencontrais. Tu sais, les intervenants, les pêcheurs, les cueilleurs. Les chasseurs, c'est eux souvent qui m'apprenaient comment dépecer soit une viande ou soit comment travailler un poisson. Tu sais, juste une petite anecdote, tu sais, on a un ami ici, tu sais, qui m'a tout appris. Tu sais, première fois que je commande du flétan, moi je savais pas c'était quoi un flétan. Tu sais, je savais c'était quoi, mais je veux dire, elle me dit, ah, j'ai des flétans de tant de livres. Puis je dis, ok, je vais en prendre 4. Puis il était la grandeur des 3 tables qui est ici.
Là, 4 flétans, là, pas 4 livres de flétans.
Non. Là, tu sais, moi, dans mes affaires, là, c'était le Festival de la chanson, c'était le truc de grandeur. Puis notre ami, Claude, qui vient de la région, lui, il a passé sa vie, il est né sur un bateau. J'ai dit, là, Claude, il faut que tu viennes m'aider absolument. Là. Écoute, j'ai
aucune idée comment arranger ça. Là.
Il a dit, Jean, j'arrive. Il nous a installés sous le congélateur, puis il m'a appris comment fileter. Wow. Mais là, c'était des grands filets, là, tu sais. Puis là, bon, on a pu tout mettre ça sous vide, mais c'est ça que je voulais dire. C'est à chacune des personnes que j'ai rencontrées au fil du temps, tranquillement, dans mon évolution culinaire, bien, les gens m'apprenaient à découvrir, à parler du territoire, à parler de, tu sais, de son environnement, de chaque produit, en fait, que ce soit des petits fruits, que ce soit des champignons sauvages, que ce soit, comme on parlait tantôt, poissons, crustacés, fruits de mer. Tu sais. C'est vraiment intéressant. Tu sais. Moi, j'ai grandi avec la Côte-Nord au niveau de mon amour pour la cuisine.
Ben oui, puis quand on commence une nouvelle entreprise, bon, toi, c'est en 2007, en 2020 pour toi, Manuel, et en 2023, c'est,
récent,
c'est ça, ouais. Exactement. Bien, il y a toujours un côté artisanal. Moi, je me souviens quand j'ai commencé Kaplan, je veux dire, mon entrepôt, c'était ma chambre d'amis. Là. C'était les tablettes qui ont été faites en made. Il y a comme un côté artisanal. Je dis ça parce que je pense bien, à toi pour le temps dont tu viens parler. Mais je pense aussi à toi, Manuel, où t'as, au début, tu venais chercher de l'eau au Bergeron que tu apportais sur ton balcon à Montréal.
Oui.
Pour faire des tests, c'est quand même... c'est pas banal.
Ben, c'est ce que je disais là, c'est naïf.
Oui, c'est bien que ça vient rejoindre la naïveté du départ.
Parce que quand personne ne l'a fait avant toi, il faut que tu inventes quelque chose. Puis quand tu n'as pas les outils, pas l'expérience, puis que tu n'as pas rencontré encore un Claude ou Jean-Sébastien qui m'a vraiment dit « Tu peux y croire, j'embarque dans ton projet » quand je l'ai rencontré la première fois. Je faisais des allers-retours où je ramenais dans des bitons de 18 litres de l'eau pour faire du sel. Mais il faut se rendre compte que dans un litre d'eau, il y a à peu près 30 grammes. Donc, déficitaire, c'est pas le mot, là. C'est ridicule.
Ça prend énormément d'énergie parce qu'il faut énormément d'énergie. Il faut faire chauffer cette eau-là.
Oui, puis je la ramenais, montais ça au troisième étage. pour l'évaporer sur mon balcon. C'est l'édition sel de balcon. C'est plus du sel de mer.
Mais il y a quelque chose de précieux, je trouve, aussi, dans ces moments-là. Je trouve, tu sais.
C'est comme artisanal.
Oui, puis il y a une nostalgie, je pense, qui s'installe après plusieurs années. Je sais pas, toi, te sens-tu... Comment tu te sens? Tu es au premier balbutiement de ton entreprise. Tu as commencé ça l'an passé, en 2023, où ta culture d'algues... C'est sûr que ça va être différent cette année. C'est un peu ce que tu me disais.
Ouais.
Comment ça s'est passé en 2023 à ton arrivée aux Escoumins?
C'est sûr qu'en premier, il faut connaître ces algues. Donc, l'année passée, dans le fond, on a fait plutôt de la cueillette pour aller... donc, on se promène dans les battures et on observe les algues. À travers les mois, on peut voir quelle algue est présente plutôt au printemps, en été, en automne, en hiver, même encore là, aujourd'hui, il y a des algues qui sont encore présentes. Là. Et de se familiariser avec ça, c'est vraiment intéressant. En plus, dans un contexte où ce que les baleines qui passent et qui nous disent coucou, puis des phoques qui sont curieux, qui viennent nous voir aussi, c'est super le fun. Puis, c'est un processus qui est long de se lancer dans une entreprise d'algues parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Surtout qu'il y a beaucoup de place à l'innovation dans la culture d'algues. Donc, c'est d'essayer des choses qui sont nouvelles, c'est dur à faire accepter aussi au niveau des ministres et des ministères parce que ils peuvent être frileux du fait qu'il n'y a pas beaucoup de recherche sur les algues. Et pourtant, c'est quelque chose qui est un légume du futur qu'on entend souvent parler. Et pas juste un légume, c'est sûr.
Qui est sur notre nez depuis tellement longtemps.
Et oui, et on l'a tellement...
Pourquoi on ne s'est pas intéressé à ça avant?
Oui, bien, l'histoire des algues est très, très longue, très grande. Et malheureusement, on a tout le temps vu ça comme un déchet, tu vois, quelque chose de... T'sais, on va pas se baigner avec les algues. Moi, je me baigne avec les algues. Et quelques personnes maintenant, ils se baignent avec les algues que j'ai convaincu. Mais tu vois, on a tout le temps détesté ça un peu. Et pourtant, on va en entendre parler dans le futur. Donc, c'est comment venir après ça, venir démarrer quelque chose, pas faire la même erreur qu'on a faite sur Terre, dans la mer aussi. Donc, on est au début.
D'un point de vue environnemental, c'est en prendre soin également. Puis, Mais justement, si on rentre plus dans le sujet de l'innovation, Manuel, toi aussi, c'était quelque chose de nouveau. Au niveau des permis, j'imagine que ça n'a pas été évident non plus à convaincre les gens de dire que c'était possible de faire du sel au Québec.
Non, c'est difficile même de parler à des gens de quelque chose qui n'existe pas pour des permis. Tu tombes dans des zones grises du début à la fin. Et donc, la façon qui a été de procéder, ça a été d'appliquer quelque chose que je connaissais, que les fonctionnaires montréalais m'ont montré. C'est comme quand tu fais quelque chose de temporaire, tu es dans une zone où tu n'as pas besoin de permis. Et ça te permet d'avancer, puis éventuellement de pouvoir aller chercher un permis parce qu'il n'y a pas de loi. C'est quelque chose, faire du sel, c'est quelque chose qui n'est pas encadré. Que ce soit MAPAC qui m'avait référé à l'époque vers le secteur minier, ou... je veux dire, pour eux, c'est juste attribuable à quelque chose qu'ils connaissent. Donc, le sel au Québec, c'est le secteur minier.
Ouais.
Donc, tu te retrouves dans des situations où c'est que tu es obligé de donner l'information à ceux qui vont, un moment donné, venir te voir pour te donner un permis.
Donc, quand même.
Je vois. c'est pas des beaux souvenirs.
C'est drôle parce que même avec, pour le MEPAC, avec le MEPAC, on est en train de monter les nombreux documents pour pouvoir avoir le site Maricole. Et il y a justement des places qui n'avaient pas de case. Et j'étais comme, c'est où que je case ça? Il dit, on va créer la case.
Ouais. Oh, wow.
Mais je trouve ça le fun parce que justement, il y a une ouverture pour ça.
Quand même.
Et c'est vraiment bien, mais tu vois comment que... il y a des formulaires qui sont montés pour une ligne directrice, des fois, qui ne laisse pas place à des fois l'innovation, mais et pourtant, on en a besoin de plusieurs secteurs. Non?
Puis, est-ce que l'innovation, ça vient en quelque sorte avec. T'sais, comment vous maintenez la motivation à l'intérieur de votre entreprise quand vous devez toujours un peu défoncer des portes? Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu, Jean-Sébastien, avec... Tu sais, moi, l'innovation, dans ton cas, je la vois beaucoup, en fait, en utilisant les produits qu'il y a autour de toi puis en essayant de faire quelque chose avec ça. Et ta volonté aussi de parler de l'importance de l'achat local, de manger local également. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui est faite depuis quelques années, mais j'imagine qu'en 2007, c'était pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui en 2023 où on sent qu'il y a une volonté du consommateur de vouloir manger localement. Est-ce que ça a été...
Ben oui puis non, tu sais, moi je me rappelle, les gens étaient curieux, puis comme je disais tantôt, moi je suis décollé avec où j'étais capable d'aller aussi au niveau culinaire, mais j'avais le désir depuis déjà les premières années, tu sais, tout de suite, à chaque année, je rencontrais toujours un ou à deux fournisseurs, puis là, ben c'est ça, à un moment donné, tu te dis, les gens, c'est ça, le problème, c'est qu'à un moment donné, je travaillais avec plein de beaux produits, puis là, les gens venaient manger un plat, puis là, ils revenaient pour manger toujours le même plat. Puis là, c'était ça, rester pris dans le fait que les gens, ils disent, comme dans les grands restaurants ailleurs, parce que c'est toujours la même carte, tu sais, de quelle façon, pour amener le côté créatif, de quelle façon, tu sais, on puisse apporter le côté créatif, c'est que, je veux dire, j'ai tout enlevé la carte, puis j'ai décidé de faire un menu à l'aveugle, 5 services, où est-ce que les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger. Puis comme ça, quand j'ai les crevettes de Michel, pour une période de temps, ça va être sur le menu.
Ouais.
Puis les gens ne savent pas après. Mm-hmm. Tu sais, quand ils vont revenir, après ça, je vais avoir des algues ou je vais avoir d'autres produits. Puis là, je peux jouer avec le menu comme ça.
Mm. Ça, c'est... Puis c'est très plaisant.
Puis aujourd'hui, c'est ça, les gens... Mais c'est vrai que ce que tu dis, que les gens sont très... Tu sais, moi, c'est notre cheval de bataille de se dire, voilà, on raconte l'histoire en plus. Quand les gens viennent manger chez nous, voilà, ça, c'est... Le verre était fabriqué par telle personne. Ce qui est à l'intérieur est fabriqué par telle personne. Ouais. Ça a été transformé par ci. Puis cette personne-là est intéressante par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est le fun de pouvoir raconter. Puis de plus en plus, c'est pour aller dans ce que tu disais, c'est que les gens sont vraiment avides puis ont envie de savoir les histoires, de savoir, de connaître de où ça vient. Tu sais. Et en plus, si tu leur racontes, que je veux dire, lui, il va avec son petit-fils puis il a l'habitude... Ouais. Tu sais, je veux dire, d'amener son sandwich, puis d'arrêter, puis juste avant. Puis là, après ça, quand la noirceur va tomber, c'est là qu'il va pêcher. Ou, tu sais, de raconter toute l'histoire de chacun, tu sais, c'est vraiment le fun.
Ben oui, absolument.
Les gens, ils apprécient vraiment ça.
Oui, puis vous aussi, vous racontez des histoires à travers celle Saint-Laurent. Il y a quand même une image de marque qui est très forte, qui est très artistique. Aussi, où tu racontes en quelque sorte justement la richesse qu'on a de notre Saint-Laurent puis la complexité de ton produit, j'ai l'impression.
Il y a plein de questions là-dedans, puis je veux dire, tantôt on parlait d'innovation, puis j'ai oublié de mentionner, nous on fait du sel avec le froid, donc le territoire c'est le Québec, donc on congèle l'eau pour pouvoir arriver à faire du sel. Et donc, on est des êtres humains qui innovent, mais qui vont énormément se casser le bessic, comme on dit. Je l'entends parler des recettes qui montent depuis que je suis arrivé ici. C'est de l'innovation de réunir autant d'acteurs du même territoire dans un plat. Puis, je veux dire, nous, on a un peu regardé... comment le faire, puis ça a été très, très compliqué pour y arriver. Et donc, on est rendu aujourd'hui à pouvoir commencer à exister, puis grâce à des programmes qui nous supportent. Là, à un moment donné, je veux dire, le MAPAC a compris qu'on n'était pas dans les mines, puis là, il nous supporte, puis là, on commence à peine à pouvoir...
Ça a été quoi l'élément déclencheur? qui a permis cette...
Des articles, des gens qui s'intéressent un peu comme ce qu'on fait en ce moment, c'est de démocratiser quelque chose qui n'a pas été fait, puis de le faire connaître. C'est super important d'en parler, justement pour pouvoir partager aux gens qui s'intéressent à leurs produits. On parle du fleuve, on parle des produits qui viennent du fleuve, mais c'est dans l'espace du temps. Les souvenirs que j'ai en Gaspésie, on mangeait juste les produits du fleuve à l'époque. Donc là, on parle de juste deux générations où ça s'est volatilisé, dans le sens qu'à un moment donné, je veux dire, il y a dû avoir une campagne de marketing sur la tilapia du Chili, puis on a tout oublié ce qu'on mangeait ici. Il y a quelque chose dans le temps...
C'est la faute du tilapia.
Mais à un moment donné, dans le temps, on va récupérer ça. Je veux dire, c'est pas normal qu'en deux générations, on ait perdu complètement toute la beauté de ce lieu-là et les espèces qui y vivent.
Puis je pourrais aussi le fait que le fait de pouvoir travailler avec les produits locaux, mais de saison aussi avec ta formule, ça permet vraiment ça, je trouve. On perd le fait que, OK, là, c'est la saison de tel légume ou tel poisson et c'est ça qu'on mange. Et c'est éphémère, mais c'est ça qui donne un petit côté, une belle histoire autour de ça. Je trouve ça agréable, cette formule.
Ouais, vraiment.
Mais moi, je trouvais que ça me rapprochait du chef. Quand je vais manger à ton restaurant, j'ai l'impression d'être proche de ton art, en fait, parce que je me laisse complètement guider, en fait, à travers tes inspirations à toi. Puis je fais un peu des liens. Puis c'est la dernière fois que je suis allée manger chez toi. J'ai vraiment réalisé ça. C'est un musicien à la base, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens à faire entre la proposition d'un musicien versus toi comme chef cuisinier, dans le sens que tu transformes ou tu crées un plat à partir d'éléments, là, que ce soit des mots ou que ce soit des aliments. Tu crées quelque chose qui est une histoire, en fait, que tu nous présentes ensuite sur la table en nous racontant, en fait, toutes les inspirations que tu as eues et tous les gens qui gravitent autour de ce plat-là, parce que c'est tous des métiers. Fait que ça nous ramène vraiment à la base de soit l'agriculture, de soit la culture, justement, des fruits de mer et tout ça. Puis, il y a quelque chose de très poétique là-dedans, mais il y a un lien aussi avec la performance d'un musicien, tu sais, dans ta cuisine. Puis, je me suis tout le temps demandé, est-ce que ta démarche artistique comme musicien est similaire à ta démarche artistique comme chef cuisinier?
C'est la même. En fait, c'est littéralement la même. C'est le même fonctionnement dans ma tête à moi, puis probablement dans la tête de tous les artistes.
Ouais, je confirme.
Tu sais, vraiment, tu pars, comme pour écrire une chanson, écrire un texte, n'importe quoi. Tu sais, nous, en plus, on fonctionne avec avec les vins.
Ben oui.
Le sommelier apporte les notes aromatiques. Lui, choisit les vins, m'envoie les notes aromatiques comme,
mettons, ça va être... Donc, t'envoies des mots-clés, là.
Exactement. Va m'envoyer foin, sang, champignons, herbacées, agrumes, abstraction totale, tu sais. Puis là, à partir de là, mais là, il faut que j'aille une partition. Puis je veux dire, au début, là, c'est vraiment un mode de création, là, tu sais, pareil. Tu sais, je veux dire, là, tout est fait sur papier au début. Là, j'écris des idées parce que, tu sais, je veux dire, c'est tellement abstrait. Là, tu dis, bon, ben OK, là, j'imagine, OK, là, je me rappelle de telle saveur, tel goût. Puis là, ben hop, tu vas écrire une espèce de canevas, on va écrire, tu sais, une partition. Puis tranquillement, je commence à essayer des trucs. Puis là, je l'envoie par-dessus. Puis là, ben aussi, avec tout, vu que maintenant aussi, en plus, mais je suis beaucoup, beaucoup dans la fermentation, tu sais, que là, on ne perd absolument plus rien. Tu sais, je veux dire, toutes les trimures de cœur de canard qu'on avait faites l'année d'avant, pour dans le menu, ben on les garde, puis là, ben je les fais fermenter, puis là, on fait des sauces avec ça, puis je veux dire, fermenter le pollen d'abeille, toutes les retailles de tout, je les fais fermenter. Des fois, je me fais penser à tu sais, le parfum, là, tu sais, qu'à un moment donné, il avait essayé de vouloir distiller de la vitre, tu sais, pour pouvoir faire un parfum, puis là, il capotait parce que ça marchait pas, tu sais, parce que dans sa tête, ça marche. Mais des fois, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire fermenter, tu sais?
Ah ouais, ouais. Hein?
C'est drôle, parce que hier, je me suis dit, pourrait peut-être faire fermenter des algues.
Ouais,
parce que je sais que je fais fermenter de la levure alimentaire, du pollen d'abeille. Mm-hmm. Puis je me dis, ça serait peut-être une affaire le fun à faire fermenter.
Peut-être un petit partenariat qui vient de naître.
Je vais rajouter une couche de complexité parce que On fait des oursins, on essaie de faire un sel d'oursin ensemble.
Ah oui?
Puis là, j'ai appris d'un Japonais, je crois, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, que les déchets, donc une fois que tu as enlevé la partie comestible, c'est des algues qui sont en digestion, qui sont dans l'oursin, puis les Japonais reprennent ça, puis le font fermenter faire un koji.
Des garum.
Garum,
le terme japonais, c'est garum.
Garum.
Un garum, c'est...
D'algues, en fait, mais mangé par l'oursin.
Wow!
Le garum, en fait, c'est...
Pas mal.
Ah oui, c'est pas
mal. On vient de monter de complexité.
Ouais, c'est super le fun parce que c'est ça, on est à l'élaboration ensemble avec Manu, là, tu sais, tu fais plusieurs tests, il y a des petites complications, là, par rapport à ce que je veux dire, c'est de l'oursin, mais on travaille sur ça pour, pour faire une neige d'oursin, c'est même peu plus, c'est une huile qu'il faut mettre avec le sel, puis après ça, on va rajouter de la fécule de tapioca, puis à ça, on a acheté des quantités industrielles d'oursins qu'on a ouvert ensemble, puis on a fait tout déshydraté, puis ça fait des chips, c'est extraordinaire. Mm. Puis là, on envoie ça dans le... Mais là, en mettant le tapioca, ça réhydrate, puis là, c'est ça. Là, on est comme...
Des tests,
on fait des tests, mais aussi, on est dans nos
vies.
Vous êtes
en recherche et développement.
Quand on se dit, OK, là, on se lance là-dessus, c'est ça.
Ouais. On passe en deux jours là-dessus, là. Oui, bien, j'avais envie, peut-être, avant de retourner en innovation, parce que là, j'ai d'autres questions qui me viennent en tête, mais je voulais quand même qu'on parle de ton parcours artistique, parce que tu es un artiste en art visuel. Tu as fait de la peinture, tu as fait de la sculpture également, je crois.
Surtout, puis un peu de caméra.
Oui, exactement. Donc, photographie. Et je me demandais, en fait, comment on passe d'un artiste professionnel en art visuel à un entrepreneur? Dans le sens, tu étais un entrepreneur en tant qu'artiste, mais je parle en tu sais, là, on parle quand même d'une entreprise où, oui, tu crées un sel, tu crées un produit de qualité, mais ensuite, il y a la commercialisation, la distribution, il y a plein de choses qui sont regroupées, mais qui sont peut-être commerce de détail. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais un peu d'expérience là-dedans? Comment tu navigues à travers ça? Ah
oui,
hein?
Oui.
OK.
Oui, c'est comme j'ai dit tantôt, je vais le reprendre, c'est d'être en plein vol dans un avion, puis on est en train de construire cet avion-là.
As-tu construit un avion
en plein vol?
C'est ce que tu disais navigue, micro,
Où on navigue dans la brume, on le sait pas. Ouais. Puis
est-ce que c'est ça qui te donne une... Est-ce que c'est ça qui te motive? Est-ce que c'est ça qui te drive?
C'est ce qui me permet d'avancer, de ne pas savoir. Parce que si tu le sais dès le départ, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop de dossiers à devoir gérer. Puis le fait de les regarder un par un, ça te permet d'y croire. Parce que sinon, que ce soit en innovation, c'est un des départements, mais de ne pas savoir que... il faut que tu passes par telle et telle application.
Ouais.
C'est sûr que je me suis perdu. C'est sûr que j'ai été découragé. Mais je suis encore là aujourd'hui. Et le lien avec l'artiste, c'est un lien naturel. Dans mon cas, je vais rajouter la couche de la science parce que faire du sel, c'est...
C'est de la chimie, là.
C'est de la chimie, mais c'est je travaille avec peut-être... 5-6 corps d'ingénieurs différents. Hein.
Wow.
Donc, la plupart des gens avec qui je travaille, je vais en nommer un, Pablo Argon. Il a un post-doctorat en mathématiques. Il me confie à un moment donné qu'il y avait eu un orgasme scientifique tellement c'était compliqué.
Ouais.
Donc, quand moi j'entends ça, je deviens inquiet. Là. Parce que tu peux pas faire ça tout seul.
Mais non.
Puis là, quand tu as quelqu'un d'aussi qualifié que ça...
Qui dit à quel point c'est complexe.
Moi, je vis d'anxiété le lendemain. Là.
Mais en même temps, il est stimulé.
Oui.
Parce qu'un orgasme, habituellement, c'est positif.
C'est positif pour celui qui le vit.
Oui.
Mais dans mon cas, c'était comme...
Mais est-ce que tu es encore dans cette démarche artistique-là?
Absolument.
Ah oui? Pour vrai? Oui. Comment ça se vit au jour le jour?
Ben avant... je faisais de l'art conceptuel, dans le sens que l'idée est au-dessus de ce que tu vas visualiser. Donc, c'est des œuvres d'art qui vont plutôt parler d'une histoire. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on parle de tantôt, qui est de présenter un plat par ceux qui ont créé la betterave, puis qui va être éventuellement mis avec d'autres ingrédients, ben ce que je faisais, c'est un peu ça, dans le sens que je faisais des œuvres qui amènent à une discussion. Donc, on peut appeler ça de l'art avec une direction sociale.
Ouais.
Juste pour donner une idée que je n'ai pas encore faite, mais qui se rapproche du sel. J'avais acheté un petit drone, puis j'avais commencé à peinturer de la neige pour éventuellement me rendre avec un drone agricole, donc ceux qui normalement sont utilisés pour épandre des produits chimiques dans les champs, d'aller peinturer un iceberg, juste pour parler de l'impact, puis de l'environnement. Puis le iceberg est vraiment un symbole très, très fort des changements climatiques qui se passent au moment présent. Et pour moi, c'est comme une élongation de mon projet de faire du sel, parce que là, on parle justement de comment on traite les océans.
Mm-hmm.
Et tout se rejoint à un moment donné. C'est-à-dire que ce soit un discours social quand tu es installé dans ton atelier, ou après ça, que tu parles de l'environnement via ton entreprise.
Ce que tu fais beaucoup là, avec ton entreprise, parce que l'objectif, au fond de ton sel, c'est de créer un sel ici, justement pour non seulement l'achat local, mais pour aussi contrer les gaz à effet de serre.
Oui, c'est la base, je veux dire.
Quand
on dit on est les premiers à faire du sel de mer au Québec, c'est pas vraiment ça qu'on aurait dit. On a choisi ce cheval de bataille-là parce que 100% de ce qu'on consomme est importé. Puis le discours, c'est vraiment de promouvoir l'idée derrière cette volonté-là qui est de faire une entreprise, c'est de montrer aux gens que tout ce qu'on fait localement, on n'a pas besoin de l'importer. Et l'empreinte écologique derrière ça est gigantesque. On parle de centaines de milliers de tonnes de sel qui vient de France, d'Himalaya, de n'importe où.
Ouais.
Donc, l'impact environnemental est énorme quand on décide de faire quelque chose localement.
Oui, puis c'est un peu dans la même approche, William, de vouloir faire la culture d'algues ici au Québec, parce que tu as été justement je pense à ça parce que tu as été à l'étranger, aux Philippines, au Japon, comme tu parlais tout à l'heure, puis tu as même fondé un organisme, en fait, pour protéger les coraux dans l'océan. Fait que la notion environnementale t'interpelle beaucoup.
Oui, moi, la conservation des milieux marins, puis c'est... c'est ça, j'ai vécu sur l'eau, puis je voyais comment c'était dégradé et que des fois, on est un peu mitigé. Est-ce qu'on doit faire quelque chose, est-ce que l'humain doit faire encore quelque chose pour l'améliorer? Nous, on a trouvé une technique pour replanter des coraux, la façon la moins néfaste possible, parce que tu sais, il y a des techniques de replanter des coraux, c'est de mettre des grosses structures sous l'eau, en plastique des fois, et qui sait, une subvention qui fonctionne pas, ou l'entreprise fonctionne plus, ou la COVID, et ces structures-là restent sous l'eau, on a fait plus de dommages. Puis c'est avec ça que quand je suis revenu ici, puis que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup avec les algues, je me suis dit, c'est les techniques qu'on utilise aujourd'hui au Québec, qui est très contraignant, puis très très contraignante dans le fond, et ça, je voyais un peu les mêmes problèmes qu'on faisait face avec les coraux. On était comme, OK, comment mettre des structures sous l'eau en s'assurant qu'on ne vient pas faire plus d'impact? Donc ça, c'est quelque chose que... C'est pour ça que là-dessus, c'est ce qui me passionne, c'est de créer quelque chose, de faire quelque chose de différent. Autant pour le côté artistique, c'est ça, je pense, que le côté artistique m'a amené, c'est que je prends des risques à créer quelque chose de nouveau. Et c'est même là-dedans, je crois, avec le... C'est dur à faire le lien entre le côté artistique et la culture d'algues, mais dans le fond, il y a cette...
Mais c'est dans les nouvelles techniques, en fait. Il y a toujours de la créativité dans ta démarche, finalement, parce que tu essaies toujours de faire différent pour avoir le moins d'impact, j'ai l'impression, sur les eaux marines, sur les environnements marins, pour essayer de développer ton entreprise, mais en ayant le moins d'impact possible.
Exact. Puis pouvoir permettre aussi, comme je disais tantôt, de ne pas faire les mêmes erreurs sur Terre qu'on veut faire sur mer, dans la mer. Et permettre aussi que d'offrir un peu un modèle d'entreprise, de petite entreprise, pas de grosse entreprise, pour que ça soit un peu... Si on vend une belle histoire, un beau modèle autour de ça, quelque chose qui est... Ah, tu sais, on vend souvent le modèle d'une petite ferme, une micro-ferme. Ah, j'aimerais ça, moi, avoir une petite micro-ferme. Mais pourquoi pas qu'on pourrait avoir une micro-ferme d'algues aussi? Mm. En ce moment, c'est pas très possible avec les techniques qu'on a, mais avec une belle histoire, un beau moyen. Humaine. Là, on pourrait avoir des petites entreprises d'algues, mais avec une technique qu'on n'a pas besoin des gros bateaux, on n'a pas besoin des grosses infrastructures. Ouais. Puis là, on pourrait démocratiser un peu la culture d'algues. Et là, on a des algues du Québec, on a plusieurs entreprises locales qui nous offrent des algues, donc ça serait quelque chose...
C'est un format économique qui existe, mais qui n'a pas trop été développé ici. Là.
Au Québec, c'est donc, très difficile, comme tu disais, les contraintes du Québec. On a les glaces, les pires hivers du monde. Les gens, ils disent, vous êtes fous, ceux qui créent des entreprises avec l'eau au Québec, parce qu'on a on a tellement de contraintes à comparer d'autres pays, c'est incroyable.
Mais une fois que ton modèle... Oui, aussi.
C'est ça.
Une fois que ton modèle de micro-économie est placé, après ça, tu peux l'exporter facilement.
Ouais.
Puis, à un moment donné, atteindre des volumes de production intéressants parce qu'il y a plusieurs personnes qui répliquent le petit modèle.
Mm-hmm. Oui. Tu veux tousser une bonne fois?
Non, c'est bon.
Non,
okay. J'ai comme une
petite... Je pensais à toi, tu sais, quand tu as le goût de tousser et tu n'oses pas, là.
Non, c'est ça. Puis là, en plus, tu dis, micro, les gars, ils parlent. Oui. Puis là, je dis, c'est hyper intéressant. Puis là, c'est probablement un petit morceau de champignon, je ne sais pas quoi, qui est comme juste pris, là. Ouais. Là, discret. Pardon, les gars.
Pas de souci. Mais oui, puis en même temps, ça me fait penser à toute ta recherche, en fait, parce que tu as voulu implanter, tu as voulu créer ton entreprise plus en Gaspésie, tu t'es rendu compte d'un point de vue environnemental que c'était pas viable, puis c'est pour ça que tu as recherché à venir t'installer plus en Haute-Côte-Nord.
Oui. Après ça, je veux dire, au niveau de l'environnement, plus tu fais de kilomètres, plus tu vas polluer si tu as à refaire les pas arrière. Mais il y a aussi le fait que quand je suis arrivé ici et que j'ai déposé le projet ici, les gens, que ce soit le maire à l'époque, que ce soit Desjardins ou Investissement Québec, ils ont embarqué dans le projet. Ouais. Quand moi, je l'avais présenté à Montréal, je me faisais regarder de travers. Ouais. Mais quand tu arrives ici, tu as toute une différente approche du territoire puis tu te fais accueillir autrement.
Fait que vous avez senti, là je dis vous parce que William,
ouais, je pense que oui,
vous avez senti vraiment beaucoup d'ouverture envers vos nouvelles idées par soit vos municipalités respectives ou du moins la Côte-Nord en général.
Ouais, autant je pense par, mettons, les municipalités ou les organismes.
MRC, SADC.
Ouais, que par les entrepreneurs, les autres entrepreneurs aussi. Rapidement, le mot s'est passé. Il y a quelqu'un qui fait des algues. Ah ouais, puis là, c'est le fun.
Les gens sont curieux, veulent en apprendre davantage.
Ils viennent te voir, puis ils sont intéressés. Ah, ça serait le fun. Donc, c'est juste ça, c'est... Si tu vois une place que c'est sursaturé d'un domaine, mais c'est dur de prendre sa place. Il faut que tu te démarques. Des fois, tu fais pas quelque chose qui t'intéresse vraiment. Tu le fais pour juste pour pouvoir percer le truc. Là, il y a vraiment place à...
Ouais.
Puis ça revient à dire à ta question d'avant, le territoire nous a choisi aussi.
Ben oui. Mmh.
Parce que l'accueil a été fait à ce niveau-là. C'est sûr que des fois, il manque un peu d'infrastructure dans certains domaines où l'innovation dépasse de loin. Mais après ça, je veux dire, on s'adapte. Puis c'est à nous de trouver des moyens de survivre là-dedans aussi.
Ben oui. Puis la collaboration, c'est important pour vous. Là, je vois dans la discussion, William, Jean-Sébastien, on dirait qu'il y a comme peut-être un petit partenariat qui vient de se créer. Manuel, Jean-Sébastien, vous êtes en train de créer un nouveau sel. Donc, ça se fait naturellement ou aujourd'hui, c'est quasiment incontournable pour la pérennité de son entreprise? Comment vous le voyez, l'importance de la collaboration au sein de votre vision d'affaires?
Bien, c'est essentiel, en fait. C'est essentiel, comme que souvent, j'aime raconter que c'est tellement le fun de pouvoir rencontrer l'autre, rencontrer ce qu'il fait. Oui, il va ramasser des algues, mais il y a comme toute son histoire alentour, ce qui est vraiment intéressant. Puis de se dire, bon, bien, OK. Puis, comme on parlait aussi, le plus local possible.
Ouais.
Quand on raconte que, je veux dire, bon, bien, le sel que vous allez manger vient de Bergeron, tu sais, entre Bergeron et les Escoumins, tu sais, les algues. Tu sais, après ça, le plus proche possible, qu'il y ait de moins de transport. Si on serait capable, que je veux dire, qu'il y ait un port aux Escoumins, tu sais, qu'on pourrait avoir nos poissons qui arriveraient, tu sais, ou à Tadoussac, tu sais, mais ils peuvent pas faire ça parce que sinon, ils vont, les grosses compagnies de distribution vont arriver et vont dire, ben non, comment ça, tu nous bypasses?
Ouais.
Puis là, ben, c'est pour ça que c'est le plus local possible. C'est tellement, tellement important.
Le plus petit, comme il fait, comme il dit, je veux dire.
Ils ont pensé à l'échelle humaine.
Ouais. On a perdu un peu notre identité.
À vouloir être trop gros, finalement. Oui, oui. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a un retour à ça aussi. Tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, mais c'est André de la Brasserie Saint-Pocresse qui a dit...
On le salue. Il aurait tellement voulu prendre part à cette discussion-là.
Il a dit quelque chose que peut-être qu'il vous l'a dit aussi, mais que j'ai trouvé ça vraiment génial. Il dit la microbrasserie, oui, c'est... créer de la bière, mais c'est aussi un bon médium pour pouvoir... Tout le monde aime un peu la bière et les produits sont faits avec qui viennent toucher à plusieurs personnes de la région. C'est un médium pour rencontrer des gens. C'est intéressant, tu sais. Puis
oui, puis dynamiser nos communautés aussi. Ouais, qu'il y a une communauté d'entrepreneurs. C'est un peu pour ça aussi que je dis à quel point que le Caplan est important dans le Saint-Laurent, dans la chaîne alimentaire. Mais je trouvais que les entrepreneurs sont également très importants dans la dynamisation de dans la dynamique, en fait, de nos communautés. Il y a
valorisation
des produits.
Territoire par le produit.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est une direction qui donne un sens aussi à ce qu'on fait parce que de pouvoir s'asseoir, justement, comme il l'écrit, avec une bière qui vient de Bécomo, qui a du sel dedans, qui pourrait avoir des algues ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est un lieu où c'est qu'on commence à discuter entre nous, puis qu'on va faire, quand on fait des collaborations, ça vient vraiment donner un sens à ce qu'on fait parce que ça va un peu valoriser notre travail. Éventuellement, c'est quelqu'un d'autre qui reprend le produit qui est issu de la collaboration, qui va le vendre à Montréal puis qui va en reparler. Et donc, ça fait du bien de voir que d'autres personnes vont prendre ce produit-là, l'intégrer à leur recette, à leur vie, à leur territoire où il est vendu. Et pour nous, cette distance-là fait en sorte que quand on regarde un peu notre quotidien, ça nous aide à nous lever des fois.
Le matin,
l'hiver, là, d'aller geler de l'eau,
je
peux te dire honnêtement que des fois, je trouve ça rough. Là, mais au début, quand je commençais à faire du sel, je me réjouissais du fait qu'il faisait froid parce que pour la première fois de ma vie, mon activité était issue de quand il fait en bas de moins 20, j'étais heureux. Là. Puis là, je trouve ça plus difficile, mais au fur et à mesure, on commence à se structurer, puis on arrive vraiment à pouvoir se donner des conditions de travail plus humaines.
Oui.
Mais je faisais vraiment ça dehors. Plus il faisait fret, mieux c'était. C'est pas quelque chose que tu choisis.
Non, c'est ça, exactement. Puis se lever le matin, puis d'aller chercher de l'eau, c'est quand même un petit défi quand c'est à bras. Exactement. Ce serait quoi votre plus grande fierté dans votre parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant?
Vas-y, t'as plus de vécu que nous.
Tes yeux pétillent.
Ouais. C'est une grande question.
Ouais.
Sérieusement, la plus grande fierté, je veux dire, déjà que d'arriver à comment qu'on pourrait dire ça, tu sais, de faire connaître notre, tu sais, moi le gros, la bataille qu'on a beaucoup, là, c'est le fleuve.
Ouais.
En fait, c'est ça qui nous rejoint, en fait, les trois.
Ouais.
En plus de nos côtés artistiques, puis je veux dire, des projets extraordinaires avec lesquels on travaille. Mais c'est le fleuve. Puis une des grandes fiertés, tu sais, moi, avec la fourchette bleue, avec Mange ton Saint-Laurent, tu sais, je gravite alentour de ces gens-là aussi, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai créé un menu qui s'appelle Mont Saint-Laurent pour la valorisation du fleuve, tu sais. Parce que 80 à 85 % du fleuve part ailleurs. C'est complètement fou. Puis là, tu parlais du tilapia puis du pangasus qui est arrivé, tu sais, je veux dire, dans nos épiceries. Puis c'est complètement fou parce qu'on a complètement oublié, je veux dire, qu'est-ce qu'on a dans notre fleuve? Puis là, c'est juste certains restaurateurs ou certaines épiceries fines qui se disent, OK, moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire,
comme les audacieux, là, mais
exactement.
En même temps, ça devrait
être audacieux. Mais si on
enrayait
ça, puis de se dire, si moi, par mon petit geste, Puis Colombe, avec son geste, son grand geste, en fait, Colombe, je veux dire, elle est beaucoup là-dedans. Puis la fourchette bleue qui nous valorise, puis qui nous dit, bon, ben voilà les poissons, les fruits de mer, les crustacés, les algues qu'il faut mettre de l'avant. Qu'est-ce qui n'est pas sur ce papier-là, il ne faut pas le prendre, parce que, je veux dire, la ressource est menacée. Mais je veux dire, à partir du moment, tu sais, à tous les jours là, que je suis en arrière de mon comptoir, puis que je cuisine, puis je raconte aux gens, mais je veux dire, moi, c'est ça. Puis ma grande fierté, ce serait de dire, bon, mais j'ai peut-être apporté un petit quelque chose.
Je peux dire pour que
le Saint-Laurent, tu sais, je veux dire, que tu t'es...
Apporter ta part, en fait, dans cet écosystème-là qui vise à protéger notre Saint-Laurent.
Ouais, protéger, puis que nous... Tu sais, je veux dire, les gens, les gens de la Côte-Nord, les gens du Québec, tu sais, que je puisse goûter qu'est-ce qu'il y a dans ce fleuve extraordinaire-là, tu sais.
C'est vrai que ça passe beaucoup par les restaurants, parce que souvent, on va le manger en restaurant, puis après, on va sentir plus en confiance de l'acheter à l'épicerie ou de le demander à notre poissonnier ou à notre épicier. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui. Là. En tout cas, il y a eu une belle montée, en fait, des gens qui voulaient justement protéger la ressource puis la valoriser, mais de se dire, bien, ça peut être plus diversifié ce qu'on peut avoir dans notre assiette. Ouais.
Puis comme on dit, de dire d'aller voir ton poissonnier, que ce soit n'importe quelle bannière, tout ça, puis de dire, bon, bien, moi, je voudrais avoir de l'ajout de flétant. Puis l'ajout de flétan qui vient du Saint-Laurent. Puis je voudrais avoir, bon, la crevette nordique, je veux pas avoir de la crevette grise qui vient de la Thaïlande, je veux dire, les gens, très peu de gens connaissent la crevette nordique,
Moi, je la fais découvrir chaque année à des gens qui ont jamais mangé cette crevette-là. Puis des fois, on pense que tout le monde en mange, mais c'est vrai, il y a des produits qu'on pense qu'ils sont démocratisés parce qu'on les mange dans notre région, mais finalement, tu arrives dans une autre région, puis les gens ne connaissent pas ces produits-là. Ouais, mais c'est vrai, tu as participé quand même pas mal à ce mouvement-là.
J'aime ça. Puis aussi, un des produits que j'ai réussi à avoir une fois, puis j'espère, puis là, on va travailler avec Michel là-dessus, c'est le corail de pétanque.
Ah, c'est bon,
le corail de pétanque, j'ai eu 30 livres à un moment donné parce que, avec justement... Moi, j'aime ça faire affaire avec des petites poissonneries. Tu sais, c'est des questions de famille qui ont leurs propres pêcheurs, qui vont chercher. Puis avec ça, c'est avec la poissonnerie Fortier. Tu sais, j'avais dit, ça serait extraordinaire parce que le corail, partout dans le monde, il cuisine, il mange. Puis ici, il le rejette à l'eau.
C'est tellement bon.
J'ai dit, pourquoi que les gars, là, ils prendraient pas un petit pot de plus pour le jeter dedans au lieu de le jeter dans le Saint-Laurent? Puis elle a vu ça comme un défi, puis elle a dit, OK, j'ai le goût. Elle a appelé ses pêcheurs, puis là, les pêcheurs ont fait comme, OK, elle a dit, je te l'avais dit, on le fait, mais c'est arrivé juste une saison. Là, les pêcheurs trouvent ça trop d'ouvrage, puis il n'y a pas de demande. Mais pour les gens qui ont déjà mangé...
Mais t'es précurseur.
C'est ça.
Les gens qui
ont... Je me souviens quand c'est arrivé, là, tes yeux étaient illuminés.
Ah, c'était fou, je capotais.
Ah ouais, puis c'est beau, mais ça rentre dans cette naïveté-là. Toi, mais il reste pas beaucoup de temps au podcast. J'ai une dernière question que je voulais vous poser, mais je voulais quand même vous entendre sur c'est quoi votre plus grande fierté, rapidement.
Ben moi, je trouve que c'est l'ouverture d'esprit des Québécois quand même. Tu sais, c'est... je prends les algues encore comme exemple, là, mais c'est dur de venir faire intégrer un nouveau produit alimentaire dans la culture. Mais je trouve que quand même, les Québécois ont... c'est quoi l'identité alimentaire des Québécois? Mais on dirait que c'est multiple. Là, mais autant, pas juste pour alimentaire, mais pour la bière. On fait de la bière, mais on la fait à 15 000 sortes. Puis on aime ça, nouvelle bière à ça. Il n'y a pas toutes les cultures qui acceptent une variété autant. Puis je suis fier. Moi, je suis parti, je suis revenu au Québec et je suis fier quand même au Québec de voir, waouh, les gens sont quand même vraiment ouverts à des nouveaux produits. Fait que j'ai vraiment un bel espoir pour les Québécois.
Super. Et toi, Manuel?
Ça rejoint ce que j'entends, qui est initié ou faire partie du changement.
Ouais.
Donc, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Puis maintenant, on vend dans à peu près 300 points. Puis ce qu'on recherche actuellement... en fait, je vais vraiment être fier quand je vais rentrer partout au Québec dans les grandes chaînes de distribution parce que c'est là que ça devient payant au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du message social qui est... j'ai rien contre le sel français, ouais. mais c'est polluant de le consommer. Mm. Puis de faire partie de cette réflexion-là en amenant des produits où, dans notre boîte, c'est pas du plastique, c'est de la fibre de cellulose. On remet pas du plastique dans l'océan. De faire partie de ce changement-là, initier ce changement-là, mm. je crois que ça va devenir éventuellement de la contamination positive pour d'autres gens qui vont vouloir créer d'autres entreprises ouais. avec des valeurs sociales comme celle-ci. Mm.
C'est super intéressant. Puis j'ai tellement encore de questions. On aurait pu jaser pendant, je pense, très longtemps. Il y avait toute la notion de voyage aussi dont je voulais aborder, peut-être dans un prochain podcast, à quel point, parce que vous êtes trois grands voyageurs.
Ah oui,
ça va
oui.
me faire plaisir de vous relancer. Il y a une dernière question que je pose à toutes mes invitées que je trouve tellement importante. C'est qu'est-ce que vous souhaitez léguer à la Côte-Nord aux futures générations en... une phrase, c'est...
Tout est possible. Faut juste y aller puis croire en nous.
C'est beau.
En fait, c'est vraiment ça. La ressource est là, notre territoire. Je veux dire, c'est extraordinaire. La ressource, notre histoire, l'histoire des ancêtres qui ont été sur la Côte-Nord. T'sais. Le fleuve, c'est vraiment, mm-hmm. vraiment tendre. C'est exactement ça. On pourrait quasiment rien rajouter, je veux dire.
est-ce que tu te risques William. À rajouter quelque chose?
Non, non, non. ce que je veux dire, c'est que c'est oh, tellement ça. Mais oui, il y en a plein à rajouter.
Oui. Ça résonne beaucoup pour toi, en fait, ouais. ce qu'il vient de dire. Ouais, je comprends. Ben oui, effectivement.
Mais oui, en une phrase, ben c'est de...
Ça peut être deux aussi, là. Je vais pas te...
apprécier où ce qu'on est, genre ouais. il faut regarder, on regarde vivre sur le bord de l'eau, des fois on regarde plus, tu sais, mais genre regarder sur l'eau, regarder dans l'eau, regarder les montagnes, regarder les gens, c'est vraiment une belle place. Puis j'espère qu'avec des gens d'extérieur qui viennent pour peut-être venir exploiter des choses qui ont pas encore regardé, je pense que ouais. ça peut faire immerger des idées pour les locaux, inspirer
d'autres gens à emboîter
les locaux, mais d'autres gens ouais. aussi de l'extérieur à venir découvrir.
Ben oui. Ouais. Merci tellement. C'était vraiment
merci
une discussion super intéressante.
Beau sujet.
Ben c'est vous qui les avez fait ces sujets-là grâce à vos parcours. Donc le 4 plans roule sur le territoire existe grâce à la SADC Manicouagan, la SADC Haute-Côte-Nord, la SADC Côte-Nord. Merci également à Tourisme Côte-Nord qui a présenté le segment Boire ton territoire. On a pu avoir accès à des très bons petits boires qui racontent finalement notre territoire et qui le met en valeur. Merci également c'est vrai, j'ai des cadeaux. Je pense à André, habituellement, qui est avec moi, qui est avec nous en pensée, parce qu'il nous, il vous donne à chacun des intervenants, donc un petit trois bières, trois différentes bières avec un verre. Et moi, j'ai décidé de vous donner un petit passe-montagne, en fait, le passe-montagne Kaplan, donc tout doux pour passer l'hiver. Ouais. Donc, on va pouvoir vous remettre tout ça. Je veux remercier les auditeurs. Merci d'être là. Merci de faire en sorte que ce contenu-là, qu'on continue à le faire parce qu'on a, on a une écoute de votre part. J'espère que les discussions qu'on a eues aujourd'hui vous ont plu. N'hésitez pas à nous écrire ou nous donner vos commentaires sur, évidemment, sur les discussions qu'on a eues, mais aussi si vous voulez qu'on reçoive d'autres invités sur la Côte-Nord. Donc, voilà. Puis si vous avez envie on est présent, en fait, sur toutes les plateformes. Donc, si vous avez envie de commenter, de nous donner un petit 5 étoiles pour nous encourager à continuer, n'hésitez surtout pas. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation puis succès pour vos entreprises. Merci encore.
À toi aussi.